et vous écoutez France Culture. Rares sont ceux d'entre nous capables de regarder la Gorgone en face, Stephen King. Christine et Cujo en DVD collector chez Carlotta, numéro hors série de Lire et de Man Movies, un panorama détaillé signé Mathieu Rostac et François Coche chez Hachette et un livre également aux éditions Brajlon, une rétrospective à Paris au Forum des Images et sortie en salle de Mr. Sleep, n'en jetez plus, le drive-in affiche complet, le camping-car étant surcharge. Jamais l'adaptation de Stephen King à l'écran n'aura suscité pareil déferlement. Il était donc normal que votre émission préférée se joigne à l'orchestre, écran King Size. Donc, ce soir, à Mauvais Genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre, consacré ce soir exclusivement ou quasiment à Stephen King en tant que fournisseur d'histoires, de scénarios, acteurs et même réalisateurs. Pour évoquer tout cela, je serai entouré de Philippe Rouillet. Comment va-t-il ?
Bonsoir, il va merveilleusement.
Qu'est-ce qu'il a fait récemment ?
Oh, beaucoup de
d'important.
Choses. Non, rien d'important.
Rien d'important.
Surtout pas.
Surtout pas. Christophe Beer.
Bonsoir,
bonsoir,
François.
Là, pareil, même question. Actualité du chroniqueur.
L'actualité. Je profite de l'antenne pour parler de l'exposition sur les pissotières. Il y a un très beau catalogue. C'est au Point Éphémère. Donc j'ai contribué très modestement au catalogue. Moi qui ai l'habitude de dire que je ne fais rien, je vous dis ce soir qu'il y a cette expo jusqu'au 5 décembre au Point Éphémère à Paris, qui est magnifique, organisée par Marc Martin, que nous avions invité il y a presque un an.
Et qui cherchait à l'époque un lieu. Eh ben, il a trouvé son lieu, qui n'est pas une pissotière ni une Vespasienne, mais qui est un beau lieu d'exposition.
Une pissotière véritable dans le lieu.
Parfait. Fausto Fazulo, bonsoir.
Bonsoir, François.
Alors, Mad Movies participe largement à la symphonie kingienne de cet automne avec le numéro 334, Dr. Sleep. Stephen King, encore Stephen King, toujours. 40 ans après Shining de Stanley Kubrick, le réalisateur Mike Flanagan réveille les traumatismes de l'Overlook Hotel. Et vous appelez donc Dr. Sleep le dernier grand film fantastique de l'année. Donc, unanimité autour de...
À la rédaction,
film,
il y a quelques personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette affirmation-là, mais si c'était le cas, ce ne serait pas drôle. Heureusement qu'on n'est pas tous d'accord. Ouais.
Voilà, donc, Et également ressorti du numéro spécial entièrement consacré à Stephen King sur les films, les séries adaptées du Maître de l'horreur, version souple et version cartonnée.
Voilà. Vous choisissez celle que vous préférez pour le métro. Je déconseille la cartonnée dans les transports en commun, mais la souple, elle est parfaite pour tout le temps, partout.
Version augmentée, il faut dire.
Version augmentée, bien évidemment.
Oui, version augmentée, voilà, et révisée, puisque vu que l'ouvrage original daté de 2013, il a fallu passer un petit coup de peigne.
Très bien. Et Paco Thielmans, bonsoir.
Bonsoir, François.
Dernier ouvrage publié sur
The Leftovers.
Leftovers, c'est l'édition Playlist Society.
Tout à fait. Playlist Society, qui est un des éditeurs, c'est Benjamin Fogel et Élise Lépine.
Que l'on salue.
Et c'est un livre que j'ai coécrit avec Sarah Achtuel. Sarah Achtuel, c'était déjà l'auteur d'un livre sur Lost et aussi d'un livre absolument magnifique sur les rêves dans les séries télévisées. Et donc, on a fait à deux, pas en écrivant ensemble, en faisant chacun chapitre à chaque fois, un livre sur la série The Leftovers qui s'appelle Le troisième côté du miroir.
Eh bien, voilà. On parlera de tout cela plus tard, en 2020, quand vous sortirez votre prochain livre, vous avez dit sur Florent Massot, mais on n'en dit pas plus pour le moment. Alors, pourquoi pareil engouement autour de Stephen King ? On n'en sait rien, on ne sait trop. Il y a une sorte d'automne de Kingien, avec également, je cite, un hors-série de Lire, qui contient choses précieuses en avant-première, les premières pages donc de son premier roman, L'Institut, à paraître aux éditions Albin Michel, et puis une sorte d'abord de mémoire de Lire avec Stephen King, et puis également une analyse et des quiz autour de la personnalité de l'écrivain, et puis d'autres ouvrages dont nous allons parler avec vous, Philippe Rouillet. Mais avant cela, c'est l'heure, non pas d'ouvrir les portes de l'Overlook Hotel, mais c'est pas plus toujours aussi inquiétant avec vous, Céline Duchesne,
ça va l'être,
encyclopédie. pratique des mauvais genres.
Alors ce soir, c'est avec Jérôme Poré qui est artiste et aussi musicien et qui, en écoutant Mauvais genre en 2011, a écouté donc une émission qui était consacrée aux maisons hantées avec l'historienne Stéphanie Sauger, souvenez-vous, François.
Tout à fait.
Alors il a eu envie de réfléchir au lien entre l'architecture et le spiritisme et cela donne, 8 ans plus tard, une exposition intitulée Les Hôtes à la Maréchalerie à Versailles avec comme figure invoquée et même convoquée Sarah Winchester.
Sarah Winchester est née au milieu du 19e siècle aux États-Unis et elle porte le nom en fait de famille de son mari qui est donc l'industrie d'armement Winchester, qui a la particularité d'avoir inventé le premier fusil à répétition qui va être très connu dans le western en fait, donc on va avoir un objet assez mythologique et qui aussi a la particularité de massacrer autant d'indiens que de bisons. Va être un des éléments fondateurs de la conquête de l'Ouest avec le télégraphe et la locomotive. Et donc elle se marie, elle se trouve prise dans une histoire, donc c'est un véritable drame en fait qu'elle vit en tant que femme. Elle perd son mari, elle perd aussi son beau-père, du tout et demeure de tuberculose qui était assez récent à cette époque, et aussi son enfant. En bas âge, une maladie assez sordide. C'est comme si il voulait pas vivre. En fait, il se décompose. Donc, ça dure quelques semaines. Donc, elle est dans une espèce de tragédie personnelle très très forte. Et au travers de ça, on est aussi à une période importante qu'on appelle donc le spiritualisme américain, donc le spirit en français. Et elle va faire comme beaucoup de gens à cette époque-là, parce qu'il y avait quasiment un spirit pour 10 000 personnes. Elle va demander à un médium qu'est-ce qui lui arrive et pourquoi c'est comme ça. Et puis cette personne ne va pas arranger la chose puisqu'il va finir par lui dire « Mais madame, ce qui vous arrive, vous êtes prise dans une espèce de malédiction par le truchement de la carabine. En fait, toutes les âmes, vous êtes hantées par les âmes, les esprits en fait, de toutes les figures, personnes, animaux tués par cette arme. » Et en même temps, il lui dit, semble-t-il, qu'elle devrait construire une maison pour se protéger et accueillir ces esprits. Donc elle achète une petite maison qu'elle va tout le reste de sa vie, c'est-à-dire pendant 38 ans, donc de 1886 à 1922, elle va y construire en permanence, elle va faire une espèce de psycho-building, une espèce de méta-habitation, une hantise qui va se mettre en place. Donc les seules personnes véritablement vivantes, c'est elle, et puis évidemment des familles de charpentiers. Elle va donc à la fois y habiter, y vivre, y mourir. On pourrait parler de folie dans le sens architectural du terme. Elle a eu une idée que moi je trouve absolument magnifique, c'est qu'il semblerait qu'elle est dans une pièce, elle ferait elle-même des séances médiumniques, peut-être d'hypnose, où elle se mettait en auto-hypnose, pour être en contact direct avec ses esprits, pour lui donner les moyens de construire cette maison. Donc elle s'est dit, autant me protéger d'eux, autant leur demander comment faire. Et ça donne un récit architectural totalement incroyable, où tout l'impensé et l'inconscient collectif va se canaliser au travers de ce bâtiment, puisque dans le cinéma américain, on va retrouver énormément de ce type de bâtiment, ce type d'illustration, que ce soit une fenêtre ouverte sur un mur, les escaliers qui vont au plafond, et le fameux balcon-fenêtre, une fenêtre au sol, entourée d'un balcon en bois, et qui est un des objets que je trouve assez magistral dans son récit, et qu'on peut voir très facilement, hein, parce que c'est une fondation, le reste de la maison existe toujours, et c'est un parc d'attractions, donc jusqu'au bout, c'est-à-dire même dans la même mémoire, ce bâtiment, c'est vraiment fait à l'américaine.
On peut retrouver la maison Winchester, ou du moins sa présence diffuse, dans l'exposition Les Hôtes, une exposition consacrée à la hantise et imaginée par l'artiste Jérôme Poré. Pour parler des liens qu'il peut y avoir entre l'architecture et le spiritisme, Jérôme Poré a réuni phonographie, spiritisme et hypnose, autant de révélations de l'inconscient, autant d'apparitions de l'absence. Et cela donne des événements et objets étranges, visibles mais porteurs de choses immatérielles, évanescentes, des murmures, des voix sous hypnose qui s'effacent, comme par exemple celle diffusé par un superbe phonographe des Frères Lumière datant de 1920. Des présences fantomatiques à retrouver au Centre d'art contemporain La Maréchalerie de Versailles jusqu'au 15 décembre et de nombreux événements sont programmés dont un concert sous hypnose le samedi 14 décembre. Plus d'informations sur la page de Mauvais Genre.
Extraordinaire musique trouvée par Laurent Polleret, une espèce de pipeau abyssal, ouais, totalement traumatisant et hanté. C'est vrai que le choix est parfait parce que la maison Winchester est totalement pré-Kingienne à 100%. C'est à la fois une maison hantée et en même temps un piège à fantômes. C'est ça qui est absolument génial avec des cul-de-sac. On est déjà, pas complètement, dans l'Overlook Hotel. Il y a totalement une structure qui est une structure qui n'est pas architecturale et utilitaire, mais totalement fantasmatique.
J'ai hâte de voir ça, je vais y aller.
Oui, surtout pour aller voir ce balcon-fenêtre. Vous vous penchez, et il y a une fenêtre sous vos pieds alors que vous êtes sur un balcon. Allez-y, vous n'allez pas être déçus. Ah,
c'est comme le Bates Motel, ou l'hôtel, c'est l'immeuble Dakota, je crois, qui est où a été tourné Rosemary's Baby.
Absolument, et où John Lennon est mort aussi.
Où il y a une pièce triangulaire, voilà, il y a quand même pas mal de lieux hantés aux USA, comme on dit. Et nous irons un jour leur rendre visite. En attendant, c'est à nous maintenant de pénétrer dans le labyrinthe de Stephen King. Désiré, signé Wendy Carlos, musique d'ouverture célébrissime de Shining de Stanley Kubrick. Volkswagen jaune de la famille Torrent circulait parmi les grands arbres en destination de l'Overlook Hotel et de son destin ô combien macabre et angoissant. Alors on peut se poser la question, Fausto Fazulo, de cette abondance soudaine, subite et apparemment immotivée, mais vous allez nous expliquer, autour de Stephen King en cet automne, puisque donc je le répète, de 3 livres, 2 numéros spéciaux de revue, une rétrospective, 2 collecteurs DVD. Qu'est-ce qui s'est passé là en cet automne 2019 autour de Stephen King, Fausto?
Prosaïquement, je dirais que c'est avant tout pour des raisons économiques.
C'est décevant.
C'est un peu décevant. Extrêmement déçu.
En termes de production cinématographique kingienne, 2019 n'est pas forcément l'année record. On reviendra tout à l'heure sur l'année 83 avec Cujo, avec Christine, il y avait eu aussi Dead Zone la même année. Donc il y a eu parfois des cuvées particulièrement chargées en adaptation. En termes d'ouvrage, je dirais que ça emboîte le pas à un succès qui a été quasi historique, c'est celui de la sortie en salle de la première partie de ça, la nouvelle version.
700 millions de dollars, on va sortir un peu de le tiroir.
Dandy Muschietti, effectivement.
De gain planétaire.
Voilà, ça a été un succès colossal. De fait, quand la suite a été annoncée et programmée, je pense que beaucoup d'éditeurs et d'auteurs se sont un petit peu alignés afin de pouvoir dégainer du King à ce moment-là, parce que forcément, il y a à avoir tout un barouf médiatique autour de King. Avec en plus la entre guillemets suite à Shining qui emboîtait le pas à la deuxième partie de ça, je pense que là toutes les planètes étaient alignées.
Voilà, toutes les planètes étaient
alignées.
C'était
soit un peu trop, soit c'était tout à fait assez pour les fans hardcore. Ouais.
Alors Philippe Rouillet, les ouvrages donc de cet automne, donc il y a le Mathieu Rostac et François Coe, d'après une histoire de Stephen King chez Hachette. Alors là, c'est véritablement la boîte à outils.
Voilà,
tout est présenté, déplié, explicité, démonté. On a
Je dirais que c'est le livre de fans.
Voilà.
Ils ont tout relu, ils ont tout revu, ils ont été chercher des séries à Bollywood. Enfin, dès qu'on parle vaguement de King, l'idée c'est là. Alors eux, ils ont choisi de procéder par ouvrage. Et pour chaque ouvrage, ils font la série des adaptations, parce que très souvent, un livre n'a pas donné qu'un seul film, il a donné, voire des feuilletons, des séries. Donc il y a un côté facile pour le regroupement. Quand même un très très mauvais point sur l'impression, sur du papier de couleur. On se perd les yeux pour lire.
Les collectuels sont encore frappés.
Ça c'est quand même compliqué, parce que ça c'est quand même dommage. On pourrait avoir le même livre écrit plus banalement, j'allais dire, des caractères noirs sur des feuilles blanches.
Et c'est quand même. C'est pas si mal aussi.
C'est peut-être. Réactionnaire, Philippe.
Mais je sais, mais
vieux jeu.
Ça donne un confort de lecture. Mes yeux.
Pour le fan vieillissant.
Alors, ce qui est amusant dans ce livre,
Philippe, ça aurait pu aussi être mieux écrit.
Alors,
ah, ça, c'est là, un autre aspect. Je fais encore
mais,
plus.
Oui, mais c'est-à-dire que je vais me faire l'avocat du diable et je vais dire que c'est un livre plus à consulter. Il y a, par exemple, oui. On a tout vu. C'est-à-dire, il y a des pictogrammes pour montrer les thèmes
bien.
Qui reviennent.
Ça, c'est
il y a
bien.
Une carte du Maine. Oui. Ça, voilà, j'aime beaucoup ça, l'idée. Ils ont fait une carte du Maine où ils situent toutes les villes où se situent les actions des bouquins de King.
Il y a des chronologies très précieuses.
Il y a des chronologies, par exemple, Derry. Hein, la ville de Derry où se passe ça. Bon, ben voilà, une chronologie à travers l'histoire avec à chaque fois les références. Ou pour Salem.
Il y a le pourcentage de
fidélité,
de fidélité dans l'adaptation avec un camembert. Ça, voilà, c'est très bien.
C'est des choses qui sont très pratiques.
Très donc, scientifiques.
Alors, voilà, c'est un livre qui se consulte plus qu'il se lit. Si vous voulez lire, vraiment, vous êtes en étant assis dans votre fauteuil et tout.
Alors,
ça,
deuxième
les
ouvrage
deux autres,
de cet auteur,
notamment le,
chez
si
Bragelonne.
Vous voulez, voilà, chez Bragelonne, l'ouvrage qui est une traduction de Yann Nathan, parce que Yann Nathan, c'est un auteur anglais.
Il a travaillé sur Alien,
il a fait un beau livre sur Alien, sur Peter Jackson, dans mon souvenir. C'est lui qui, longtemps, a été rédacteur en chef de Empire, la revue. Et donc, on a cette traduction chez Bragelonne. Alors, lui, c'est par film. Et ce qui est très intéressant, alors évidemment, il donne son avis, en même temps, il donne à la fois son avis sur la fidélité de l'adaptation, sur la qualité des films. Il écrit suffisamment bien pour que si on n'est pas du tout d'accord avec lui, notamment sur la qualité des films, parce que les adaptations, ça va, je veux dire, il a lu le livre, il a lu le film, ce qu'il dit est juste. Mais si on n'est pas d'accord sur ses choix cinématographiques, c'est pas gênant parce qu'il y a quand même un talent d'écriture et il explique ses choix. Et surtout, il le dit dans la préface, c'est presque une bio déguisée de King. C'est-à-dire que pour chaque livre, il replace dans le contexte pourquoi il a écrit ça, qu'est-ce qui est arrivé, etc. Et donc, ça a un côté très agréable et c'est le côté Coffee Table Book. Hein. Voilà. C'est un très joli album qui est évidemment positionné pour Noël. Après,
et alors on termine.
Le fan doit absolument se procurer le numéro donc hors série de Mad, qui est le plus complet sur les films. C'est-à-dire que, je veux dire, c'est avant tout ça. Ça ne veut pas dire que Stephen King y est négligé, mais par exemple, dans le Yann Nathan, il ne va pas vous détailler la director's cut de Myst d'Arabon qui est en noir et blanc. Alors que, évidemment, c'est un morceau de choix. Le Rostac Echo en parle, hein, ou du prix du danger d'Yves Boisset à propos de Running Man, mais tout ça c'est ça la Galaxy King. Donc
voilà, vous avez bien compris, chers auditeurs, il faut avoir les trois pour avoir la totalité de l'univers de King.
Bah, c'est le principe de la complémentarité. Ils se sont pas concertés, mais en fait, en tout cas, je pense que l'explication de Fausto est très juste pour cet événement éditorial. C'est-à-dire qu'on était sûr que la sortie de ça partie 2 serait un événement. Et que voilà, et Dr Sleep en bonus, il n'en fallait pas davantage.
Et puis dans Mad Movies, l'écriture, alors là, je reprends l'allusion du maître Beer, l'écriture est quand même extrêmement tenue. On est vraiment, c'est presque doctoral par moment.
Christophe, qu'est-ce que tu en penses?
Il y a notamment Gilles Esposito qui fait des analyses formidables.
Alexandre Poncet.
Oui, c'est une équipe.
Cédric Delellé aussi,
voilà, très rodée. Oui, bien sûr.
Voilà.
Mais pour l'expliquer à propos de King, il faut aussi souligner que c'est un auteur qui a été extrêmement adapté. Donc ça en fait une proie de choix pour le monde éditorial. On peut faire comme ça des livres amples. Mm-hmm. C'est ça qui peut aussi expliquer cet engouement soudain.
Alors, Stephen King à l'écran, le sujet donc de ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture. On commence avec vous d'ailleurs. Christophe Beer, j'allais dire Christophe King avec Salem Slot. Toby Hooper. We'll be right back. actualité du livre, mais également actualité vidéographique, avec donc, commençons par cette dernière, oui, Salem's Lot, qui sort en Blu-ray.
En Blu-ray chez la Warner, donc une magnifique copie. Donc, on connaissait ce film, enfin ce téléfilm plus exactement, qui était sorti en salle dans les années 80, dans une version très réduite d'1h50. Nous découvrons, on l'avait déjà vu en DVD, mais dans cette magnifique version Blu-ray, on a le téléfilm dans son intégralité de 188 minutes. Donc c'est vraiment la version qu'il faut avoir vue, la version européenne condensée, et à quelques différences, un peu plus violentes par quelques moments, mais c'est vraiment la version télévisée qui compte. D'ailleurs, bon, le projet de la Warner à l'origine a eu beaucoup de mal à démarrer. Quand Carrie est sorti avec le succès que l'on connaît, la Warner avait déjà acquis les droits de Salem's Lot et il y a eu énormément de difficultés à l'adapter au cinéma. À l'origine, ça devait être un film de cinéma. Ensuite, en 79, lorsque la Universal sort son Dracula de John Badham, que la Fox annonce la sortie du remake de Nosferatu de Herzog, la Warner décide d'abandonner pour le grand écran cette adaptation de Salem's Lot, et c'est là et de la confier à son département télévisuel. Et ça va tout décoincer, notamment par son producteur Richard Kobritz, qui a vraiment l'intelligence soudain de comprendre que cet énorme pavé de plus de 400 pages nécessite ce que les Américains appellent une mini-série. En fait, il s'agit d'un très grand téléfilm en deux parties. Et à ce moment-là, le scénariste, qui commence à être connu par les fans de Stephen King, puisqu'il est le producteur de Carrie, Paul Monash, le scénariste a toute l'ampleur pour pouvoir développer une intrigue qui est quand même assez compliquée, avec beaucoup de personnages.
Donc, rappelons que marqué par le Dracula de Bram Stoker.
Oui, c'est une version, c'est une revisité moderne du Dracula. Stephen King avait enseigné avec des étudiants donc ce Dracula. Il avait vu l'engouement que les étudiants avaient pour le roman de Stoker et il s'est dit, mais il faudrait peut-être faire un Dracula moderne. Et comme il est très attaché au Maine, il décide de faire un nouveau Dracula dans une petite bourgade rurale qui est Salem's Lot, et avec toutes sortes de personnages. Et on découvre déjà dans ce roman et dans le téléfilm toutes les variations qui vont faire l'œuvre de Stephen King, l'alcoolisme à travers un second rôle, le personnage de l'écrivain plus ou moins raté. Il a fait deux romans, il a l'air de chercher son inspiration, il retourne sur les lieux de son enfance où il a subi un traumatisme qui est lié à une maison. Et il y a aussi cette idée d'un lieu maléfique. C'est ce lieu qui est une maison, la Marsden House. Et l'essence du mal, jusque dans ses poutres, tout ça. Bon. Et donc, le scénariste est aussi quelqu'un qui avait été à l'origine de Peyton Place, cette sitcom très célèbre de la télévision. Et d'une certaine façon, c'est une des idées de Stephen King. Salem's Lot est un Peyton Place de l'horreur.
Fausto Fazulo, confirmez cette brillante formule du maître Beer.
Je confirme tout à fait. Puis c'est extrêmement stimulant de trouver pour la première fois l'association Hooper et King. Je trouve que, alors c'est un avis tout à fait personnel, mais que de tous les grands maîtres de l'horreur américains, Toby Hooper est peut-être celui qui se rapproche le plus en esprit en fait de Stephen King. Donc l'association, elle tombe vraiment sous le sens. Il y a eu une autre adaptation de Toby Hooper, enfin de King par Toby Hooper, c'était The Mangler. Apparemment.
Une sombre mémoire. Quand même.
Moi, je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain, si je puis dire. Mais il y avait une troisième aussi adaptation qui était un temps prévu. Enfin, ils auraient aimé remettre le couvert, ça n'a jamais pu se faire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est probablement le film dans lequel Toby Hooper peut exprimer de la manière la plus libre et frontale, en fait, son amour du gothique.
Il venait de sortir du cinéma indépendant. Et là, c'était vraiment un tournant dans sa carrière avec un gros studio qui l'épaulait.
Mais comme tellement Salem Slot.
Ah, j'aime beaucoup Salem Slot. Je suis très content que Christophe ait choisi d'en parler. Juste un mot, c'est par rapport à la question même de l'adaptation et la fidélité à l'adaptation. Moi, j'aime vraiment une adaptation quand elle est infidèle. Et Salem Slot, il y a une infidélité que je trouve vraiment très réussie. C'est le changement dans le vampire. Oui. Parce que le vampire, qui devait être un vampire plus proche de Dracula, on va dire, a été transformé pour le film, je vais vous dire le vampire de King, est transformé pour le film de Hooper en une espèce de créature post-Nosferatu, complètement dézinguée, muette, qui est vraiment maladive, qui est jouée par, je crois, c'est bien l'acteur Reginald Durr. Et ça, c'est ce que je trouve que le tandem qui forme Reginald Durr avec James Mason.
Avec James Mason est venu,
qui joue son serviteur,
poser ses valises dans cette étrange production,
qui reste un être humain, quoi. Et là, il y a cette espèce de duo, le tandem étrange qui forme, a vraiment un charme fou, quoi. J'adore ça.
Salem Slot en Blu-ray, donc, de Toby Hooper, c'est à la Warner. Cujo.
Cujo. Can he get us in here? Can he eat his way in here? Can he?
Oh my God, I'm losing my baby.
The novel by Stephen King, creator of Carrie and The Shining, comes a startling vision of fear.
Please, God, get me out of here.
Now there's a new name for terror. Cujo.
La voix est extraordinaire, le Cujo. Cujo, parce qu'il permet de poser la question du bestiaire chez Stephen King, Fausto Fazzullo, qui n'est pas à ce point développé. On a parlé de Dario Argento, est quand même un réalisateur, lui, du bestiaire. Il y a de tout, des corbeaux, des chiens, des chats, des mouches. Chez Stephen King, c'est plus modeste sur le plan de la...
C'est plus modeste et c'est...
La zoophilie, si j'ose dire.
C'est ça, ouais, c'est plus modeste et c'est étroitement lié, en fait, à l'une de ses thématiques chères, c'est la famille. Puisque avec Cujo, on se retrouve effectivement plongé, alors dans le roman, dans la tête d'un chien, entre autres, et dans le film, on se retrouve vraiment plongé entre deux familles, en vérité. Donc c'est une adaptation qui a été tournée en 1983. Je le disais tout à l'heure, en fait, 83, c'était une année kingienne particulièrement riche. Et le metteur en scène, on peut pas dire que parmi les deux autres, en fait,
faut
qui ont réalisé Lewis Teague. J'allais le dire, ne t'inquiète pas. coincé entre Cronenberg et John Carpenter en 83, c'est pas forcément celui qu'on a retenu de cette cuvée-là, alors que c'est un, moi, je l'apprécie particulièrement, cet homme-là, puisque c'est vraiment un artisan. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pas forcément une patte visuelle extrêmement marquée, mais qui, travaille de manière laborieuse, de manière extrêmement réfléchie sa mise en scène. Donc, ne se dégage pas une personnalité très saillante, mais, Cujo, pourrait le dire de manière un petit peu raccourcie, c'est du bon boulot. Et le film, pour parler un petit peu de l'histoire, raconte en fait comment un chien, donc un Saint Bernard, donc une race qui est
plutôt sympathique, voilà, le petit tonnelet de Rome,
c'est ça, voilà, volontiers associé à un animal protecteur et qui en plus ravit les alcooliques. comment un Saint-Bernard en fait est mordu par une chauve-souris enragée, donc devient parfaitement incontrôlable, et s'attaque à sa famille d'accueil, une famille totalement prolétaire, et ensuite à une famille beaucoup plus bourgeoise, puisque ce qui est très intéressant en fait dans le roman et dans le film garde justement ce point-là, mais le développe un petit peu moins, forcément sur 1h30, on est fatalement plus court que sur un roman de 400 pages, garde cette idée de trait d'union, en fait. C'est-à-dire que le chien est un trait d'union entre la famille bourgeoise et la famille prolétaire. Et dans ses victimes, d'ailleurs, il ne fait absolument pas la distinction. C'est le film, sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment un film qui est à l'os. C'est-à-dire que toute la psychologie qui était présente dans le livre, notamment concernant la famille, concernant la thématique de l'adultère. Elle est présente dans le film en filigrane, surtout à travers le jeu de Dee Wallace, qui a été d'ailleurs salué par Stephen King, qui a longtemps considéré Cujo comme l'une de ses adaptations préférées. Mais on est tout de même face à un film de terreur animale assez classique, parfois émaillé de coups d'éclat en termes de mise en scène, mais toute la partie, on va dire, beaucoup plus psychologisante, voire un peu l'étude sociale aussi qui était présente dans le livre, est quand même éjectée du long métrage. Mais on voit pertinemment que ce sont des choix artistiques qui étaient liés à une cible, c'est-à-dire que c'est une série B qui est destinée avant tout à des spectateurs qui attendent ça, en fait, un film de terreur animale qui soit une sorte de déclinaison, en fait, canine des Dents de la Mer, hein, c'est un petit peu l'idée, vu que c'est le modèle absolu. Il était donc évident que toute la partie, on va dire, beaucoup plus en creux, beaucoup plus torturée autour de la thématique familiale, de l'adultère, de la perte de l'innocence, soit légèrement évacuée lors du passage de la page au grand écran.
Donc, l'histoire d'une mère de famille et de son enfant réfugiée dans un véhicule automobile, et qui subit les assauts d'un Saint-Bernard, mais le Saint-Bernard qui n'est pas intrinsèquement mauvais, puisque sa rage, puisqu'il est enragé, vient, Philippe Rouillet, de la morsure
du chauve-souris. Voilà. Ce qui est très intéressant, François, c'est que vous résumez le film, et l'idée du film, c'est ça, c'est la mère et son fils, mais sauf que le film fait 1h38, et que cette séquence-là, ce moment-là, commence au bout de 51 minutes. C'est-à-dire que, mine de rien, et je suis d'accord avec Fausto de dire qu'il sabote tout le côté, enfin, il saupoudre l'adultère, l'affrontement de classe des deux familles et tout ça, mais il en fait quand même 50 minutes. Mmh. C'est-à-dire qu'on a quand même hâte que le film commence. Et le film commence à plus de la moitié. La question que je me pose, c'est est-ce que Stephen King n'est pas si fou de ce film et si fou de Lewis Teague que parce que justement il est ce que vous dites, c'est-à-dire un bon artisan, quelqu'un d'un peu laborieux, qui n'a pas tellement de pensées et que finalement Stephen King préfère les gens de cinéma qui ont pas trop de pensées. D'ailleurs, Lewis Teague a pas eu le temps de penser le film puisqu'il arrive alors que le film est déjà commencé. C'est Peter Medak qui est viré au bout d'une journée et qui part avec son chef-op. Donc c'est un peu compliqué. Alors cela dit, il y perd pas parce que comme nouveau chef-op, il a Jean de Bont, celui qui fera Speed. Enfin, je veux dire, et l'image est assez remarquable. Hein. Et le Blu-ray Carlotta rend vraiment compte de cette image. Mais quand même, le film est je le trouve quand même très limité. Enfin, je veux dire, autant quand on est dans le Allos, effectivement, quand on est dans l'affrontement avec le chien, et dans les bonus, on nous raconte comment il a fallu avoir 4 chiens et que c'était très compliqué parce que c'est vraiment des chiens pas méchants. Donc, pour la bave, il a fallu leur mettre des espèces de trucs.
En plus,
autour.
Le Saint-Bernard est joueur.
Mais du coup, il mangeait l'effet spécial. Il mangeait l'effet spécial et il y a quand même des plans où il a fallu prendre des Rottweilers, quoi. Parce que on n'y arrivait pas, quoi.
Je suis d'accord avec Philippe. J'ai beaucoup d'admiration pour Stephen King, mais en termes de sa relation au cinéma, il est d'une mauvaise foi extraordinaire. C'est-à-dire qu'il préfère toujours une adaptation fidèle mais ratée à un grand film infidèle. Donc ça, c'est systématique. Donc il va toute sa vie louer les adaptations les plus brinque-ballantes,
laborieuses,
même apparaître dedans dans Les Langoliers. Moi, j'adore Les Langoliers, mais enfin, c'est un film vraiment très très fragile. Et dès que la personne prend un peu de distance et essaye de raconter autre chose à partir de... Enfin, prend le roman comme un matériau, en gros, hein, un matériau qui va lui servir à construire une autre maison, en fait. Pas simplement construire la maison de King, mais construire sa maison avec un
Stephen
roman King.
Built.
Voilà, exactement. Bah là, il va pas être content. Donc c'est pour ça que c'est complexe, hein, rapport d'un écrivain au cinéma.
Et moi, je me demandais si c'est justement Philippe. Pas parce que Stephen King a un rapport avorté avec le cinéma, c'est-à-dire que il a été scénariste. Là, on en parlera tout à l'heure, la version de Shining de Kubrick qu'il aime tellement pas. Ouais. Lui, il a proposé un scénario que Kubrick a refusé.
Et, il l'a même pas lu.
Et je veux dire, il a fait un film qui est Maximum Overdrive. Alors, c'était dans des conditions difficiles, mais après, il n'a pas récidivé.
Puis il a été acteur, enfin, voilà. Disons qu'il...
Oui, alors, dans le bouquin de Rostack, c'est marrant, il y a 4 pages où on répertorie tous les caméos, ou parfois un rôle plus important qu'à King dans ses films. Je pense qu'il y a un rapport très, très particulier. C'est non seulement il aime qu'on soit fidèle, mais il aurait aimé être aussi le grand réalisateur de ses livres.
Contrôle, quoi.
Fausto ?
Ah bah je ne peux être que d'accord. Après, je vais me faire quand même l'avocat de Lewis Teague, qui est quand même un réalisateur plus estimable qu'un Big Garris, qui est le parfait mercenaire, en fait, pour Stephen King, par exemple.
Mais oui, c'est la différence entre l'artisan et le mercenaire. J'apprécie vos choix de mots.
Voilà. Et surtout, il y a une équipe artistique sur Cujo, que ce soit Charles Bernstein à la musique ou Yann de Bont à la photo, Dee Wallace à l'interprétation, qui hisse le projet quand même au-dessus, en fait, d'un produit qui aurait été réalisé avec beaucoup trop de déférence, quoi.
Il avait fait un très bon film de Crocodile, l'incroyable alligator.
C'est ce qui lui a valu, d'ailleurs, d'être choisi pour le Saint-Bernard. Nouveau film ce soir, donc, tiré de Stephen King. Cette fois, c'est John Carpenter. Christine. Très beau DVD collector et Blu-ray collector chez Carlotta de Christine avec le livre.
Oui, détailler le packaging. Oui. Vous savez, c'est leur collection Ultra Collector, donc il y a un vrai livre. En l'occurrence, c'est la traduction d'un livre australien qui est très très intéressant, d'un spécialiste du cinéma qui décortique le film et... j'allais dire presque séquence par séquence et auquel il accorde à chaque fois un chapitre. Alors ça commence par une analyse qu'il fait et puis après il donne la parole à la fois aux interprètes, à Carpenter, aux producteurs, etc. Donc il y a vraiment une étude. C'est un livre très très agréable à lire et très instructif et qui apporte des choses qui creusent ce qu'il y a dans les bonus vidéo, parce qu'il y a des bonus vidéo dans cette édition. Il y a les scènes coupées, il y a un commentaire audio. Alors c'est très marrant, les commentaires audio de Carpenter, c'est parce que toujours on se met en chaussons, quoi. On retrouve ses poteaux, on écluse une bière et on rigole et on évoque des souvenirs, quoi. On n'est pas dans l'analyse filmique à proprement parler, mais c'est tout à fait intéressant. Et puis il y a un solide making-of de Bouzereau qui date de 2003, je crois, qui dure 45 minutes, qui permet de bien faire le tour. Et puis, dans cette édition, il y a encore un bonus inédit, qui est la captation de la conférence qu'a donnée Carpenter à Cannes en mai dernier, quand la SRF lui a remis son carrosse d'or, qui est une... Alors, rien à voir avec Christine, hein, c'est pas pour Christine on donne un carrosse d'or. C'est, je veux dire, Kiarostami et Jeanne Campion ont eu aussi leur carrosse d'or, sans faire de film de voiture.
Je demande à voir.
C'est une récompense que donne donc la Société des réalisateurs de films, donc à la quinzaine. Et il est interviewé par Catel Quélévéré et Yann Gonzalez. Et voilà, il y a la transcription de ça. Et alors, le film est en majesté. Il y a le Blu-ray 4K, il y a le Blu-ray normal et il y a le DVD. Donc, vous êtes totalement équipé, quel que soit le matériel que vous avez chez vous. Et quel que soit le matériel que vous avez chez vous, vous allez quand même savourer cette restauration. Enfin, il n'est pas spécialement restauré, mais cette transposition numérique de Christine, qui est un film très esthétique. Alors, le son est déjà très très important. On a entendu la musique et tout de suite
on reconnaît.
On reconnaît la patte Carpenter. Il y a aussi beaucoup de standards de rock qui sont. Alors le livre était écrit avec, j'allais dire, une playlist à la main. Chaque chapitre commençait par une chanson. Il s'en affranchit et là c'est une belle trahison. Mais tout ce qui était un peu lourd dans le livre est gommé du film. C'est-à-dire que la voiture devient vraiment une femme, Christine. Alors, vous allez me dire, c'était déjà un peu ça, mais oui. Il pousse il pousse au bout, c'est-à-dire qu'il pousse la sensualité et la sexualité de son nouveau propriétaire. Et pour ça, il va jusqu'à gommer l'histoire de Christine. C'est-à-dire qu'au début du film, Arnie, qui est une sorte de nerd, qui est joué par l'acteur qui était le fils d'Angie Dickinson dans Pulsion. Donc c'est 3 ans après, il a encore un peu ce look. Et puis évidemment, on en rajoute sur le côté lunettes de traviole, le gars maladroit qui renverse tout, et qui va tomber en pamoison devant cette voiture qui est complètement déglinguée. Et donc, il y a l'idée que le propriétaire, il l'achète au frère de l'ancien propriétaire qui est mort. Mais on n'en saura pas beaucoup plus. Alors que dans le livre, il y avait le spectre du mort qui était constamment à l'arrière. Mais Carpenter a cette bonne idée de dire, on n'a pas besoin de ça.
Il y a quand même au départ l'atelier de montage.
Eh bien ça, c'est une idée géniale.
Voilà.
C'est-à-dire que la première séquence du film, qui est une des plus belles, c'est l'atelier de montage. Et donc c'est l'atelier, c'est en 58, ou en 57, puisque c'est une Plymouth 57, c'est en 57, la création de la voiture. Et sur cette chaîne-là, le caractère maléfique de la voiture est avéré. C'est-à-dire qu'un technicien qui était un petit peu trop à tourner autour et qui lui glisse la main sous le capot. Mais c'est vraiment.
C'est pas des manières.
Ben c'est vrai. Oui, mais c'est exactement ça. C'est vraiment sexuel, quoi. Il lui met la main sous la jupe et crac, plus de main. Et un autre qui veut un peu se répandre sur elle. En laissant traîner sa cendre de cigare comme domination, bon ben voilà, c'est fini. Et du coup, Carpenter réalise le fantasme que exposait Hitchcock dans ton livre avec Truffaut, où il disait à propos de La mort aux trousses, j'aurais rêvé faire une séquence à Détroit où on voit une chaîne de construction automobile, on est au début de la chaîne, et à la fin de la chaîne, quand la voiture est finie de construire, on ouvre la porte et il y a un cadavre qui en sort. Sur J.X. Lillo. Et ce fantasme-là, évidemment, Carpenter a lu ce livre, enfin, il connaissait cette histoire, et il l'a recréé. L'intérêt, c'est que d'emblée, Christine est posée, du coup, comme maléfique, c'est pas parce que pour les mauvais traitements, c'est pas pour... elle n'a pas été maraboutée, il n'y a pas d'explication. Et ce qui est très intéressant, c'est comment la possession de son propriétaire va être à la fois sexuelle, diabolique, et finalement, lui n'est qu'un jouet. Il ne pourra pas... une fois qu'il est avec sa belle voiture, il n'a plus besoin de lunettes. Ça lui redonne la vue. C'est quand même splendide. Il n'a plus d'acné. Et il a des costumes des années 50. C'est-à-dire que tout d'un coup, sa garde-robe change. C'est vraiment comme s'il était possédé par la voiture. Et du coup, évidemment, il a du succès avec le canon du lycée. Mais il ne pourra jamais concrétiser, finalement...
Avoir
une petite amie, c'est qu'un colis fiché, quoi. Un colis fiché qu'il affiche dans sa voiture comme un porte-clés. Sa vraie maîtresse, c'est la voiture qui saura évidemment le balancer quand elle n'en voudra plus.
Christophe Beer.
Oui, en fait, c'est on retrouve cette idée que le lieu ou un objet est l'essence du mal. Un peu comme le manoir de Salem Slot. Là, c'est la voiture. Et le personnage du jeune garçon, donc possédé, c'est aussi une question d'addiction, quelque chose qu'on va découvrir aussi dans Shining, l'idée qu'un personnage tout d'un coup est addict soit à l'alcool, à la drogue. Là, il est addict à cette voiture, et c'est très bien montré par Carpenter. Et ça ne peut qu'avoir des conséquences extrêmement fâcheuses. Et bon, le personnage du spectre qui a été évacué par Carpenter, là, c'est aussi toutes ces idées de fantômes qu'on trouve dans toute l'œuvre de Stephen King. Donc, soit c'est une maison qui est l'essence du mal et qui attire le mal à elle, et soit c'est une voiture. Et c'est peut-être pour la raison pour laquelle il y a si peu d'animaux, finalement. Je crois que les histoires d'animaux intéressent peut-être moins Stephen King que
la culture du quotidien. Quoi.
Oui, voilà, oui, la culture du quotidien, ces petites bourgades avec des lieux maléfiques.
Pas comme tellement.
J'aime beaucoup aussi Christine de Carpenter. Ça fait aussi partie des adaptations de King que je trouve vraiment remarquables. Et justement, le fait d'avoir enlevé le fantôme. Et là, c'est comparable aussi à Shining où on enlève Horace Derwent, qui est vraiment le méchant principal. En fait, c'est au cinéma que l'objet ou le lieu est devenu vraiment le méchant. Parce que finalement, dans le roman, ça reste quand même une histoire de spectre. Et c'est très intéressant. C'est-à-dire que comme si King avait eu l'intuition de déplacer sur l'objet, mais c'était pas allé au bout de son intuition, et c'est le réalisateur qui s'empare, et en nettoyant un peu l'histoire et en simplifiant, il arrive à ce truc-là, et ce qui crée aussi cette fascination. Parce que Christine, en effet, il y a une fascination par, on va dire, le côté le sex appeal de l'objet.
Et par la mise en scène de Carpenter, c'est ça qui est intéressant. C'est pas tant des effets spéciaux, ils ont pris 24 voitures et qu'ils ont filmé, tout ça, mais c'est à chaque fois l'éclairage, les plans, la contre-plongée, cette séquence où, par exemple, la voiture renaît après avoir été défoncée par des brutes, qui est une scène à la fois sensuelle et aussi une scène de pouvoir, ça tient sur le cinéma. Où le premier mort, qui est le premier crime que fait Christine, c'est, il y a quasiment pas d'effets spéciaux, de sang, etc. C'est uniquement les axes de caméra et le montage qui crée cette violence, comme c'est ça qui crée la sensualité.
Fausto Fazulo.
Bah oui, c'est ça. C'est son film, paradoxalement, le moins graphique en termes de violence et le plus chargé en sexualité, en fait, métaphorique. Et je me suis posé la question, mais je me demande si c'est même pas peut-être le film de Carpenter qui évoque le plus la sexualité dans toute sa filmo. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours pas vraiment abordé ça, ou alors de loin à travers certains personnages. Là, il l'aborde très frontalement. Moi, il y a deux scènes que je retiens et qui m'ont vraiment marqué et qui me hantent encore aujourd'hui. C'est la première fois où le comédien Keith Gordon met les clés dans Christine, qui est clairement en fait son dépucelage, et quand la voiture se met à démarrer, en fait, effectivement, le vrombissement du moteur est l'équivalent, en fait, d'une jouissance féminine, et la manière dont Carpenter filme ça, c'est vraiment une scène d'orgasme mécanique, comme on n'a jamais vu à l'écran, et c'est aussi la métamorphose psychique de Keith Gordon. Il y a un moment, en termes d'acting, qui est vraiment très puissant, c'est quand il menace, en fait, son père, où là, on a un déploiement en termes de jeu, comme rarement on a pu en voir dans une adaptation de King. Il y a eu de très bons comédiens qui ont joué dans des adaptations de King, mais bon, parfois, on va dire que le choix au niveau du casting était un peu faillible. Là, on a vraiment un énorme moment de cinéma, d'acting, aussi bien en termes de mise en scène que de présence des comédiens.
Avec une idée géniale, c'est que qu'est-ce qu'il y a de plus passager, de plus jetable, de plus appelé à disparaître qu'une voiture américaine, je veux dire. Ouais. Et c'est avec cet objet qui est un objet totalement passager, qu'il arrive à incarner la permanence du mal. Mmh. Et au lieu de l'incarner dans un lieu, qu'une sorte de, soit une montagne, soit un château, il prend vraiment que ça pourrait être comme un toaster, ou ça pourrait être.
C'est un potentiel mal à la chaîne en plus, voilà. C'est ça qui est terrifiant.
C'est ça qui est génial, c'est qu'il arrive à croiser la permanence ontologique du mal avec la culture de la consommation. Et ça, c'est quand même quelque chose de très remarquable.
Il y avait ça en filigrane aussi dans Cujo, avec cette histoire de céréales, en fait. Voilà. Céréales contaminées, les céréales qui sont données aux
adultes. Pas du tout traitées dans le film.
Qui n'est pas traitée dans le film, mais en tout cas, il y a effectivement cette idée de mal qui se consomme et qui consomme le monde entier.
Ce qui est intéressant, c'est que dans toute l'œuvre de King, c'est vraiment la société américaine contemporaine qui est là. Et dans Christine, il y a un bon choix de Carpenter et d'avoir inscrit ça dans le Teen Movies.
Shining, Penderecki, tous ces compositeurs qui, sans le savoir, faisaient des musiques de films fantastiques. Et heureusement, Kubrick est arrivé et leur a expliqué Alighetti et Penderecki et Ozenakis, Bartok. Mais non, cher ami, vous étiez là pour donner de la musique à mes cauchemars. Oh. Shining, on termine avec le film
de Stanley Kubrick. J'ai pas pris le moins connu, je suis désolé. J'ai pas pris le moins connu. J'en adore d'autres, j'adore Carrie et tout ça. Mais bon, quoi, Shining, il y a quelque chose qui se passe qui m'intéresse particulièrement, et surtout si on parle de la question de l'adaptation, parce que c'est une vraie question qui se pose de toute façon. Qu'est-ce que c'est de passer d'un livre à un film, et qu'est-ce que c'est que de trahir parce qu'on en fait autre chose, et qu'est-ce que fait Kubrick quand il adapte des films? Et en général, ce qui rend ces films si magnétiques, si fascinants, c'est que il les vide de l'interprétation la plus évidente, ou d'une interprétation qui pourrait être déjà donnée par le roman. C'est-à-dire que Il y a plein de réalisateurs, quand ils lisent un roman et qu'ils l'adaptent, même John Huston fait ça, et pourtant je respecte beaucoup John Huston. Bah, il prend une ligne, vous voyez, au-dessous du volcan, ça pourrait être... on peut prendre plein de lignes différentes, dont une ligne ésotérique, par exemple, qu'il abandonne complètement, il reste sur l'alcool. Tandis que quand il prend un roman, Kubrick, que ce soit Lolita, que ce soit La Nouvelle Rêvée de Schnitzler ou d'autres, il va en fait l'ouvrir, c'est-à-dire qu'il va enlever des détails qui permettraient de l'interpréter tout facilement. Et c'est pour ça, je crois aussi, qu'il y a eu ces deux versions et que donc il faut quand même conserver la version européenne comme la bonne version, même si on est en train de réhabiliter la version américaine.
Mais pour des raisons mercantiles, c'est-à-dire que les DVD sont fabriqués aux États-Unis et c'est leur version américaine, il n'y a que celle-là qui existe.
Oui, mais s'il a enlevé les scènes sur l'alcool... C'est surtout ça, et celle sur l'alcool, c'est pour que ça ne soit pas vu absolument comme une histoire d'alcoolisme, quoi. Que c'est vraiment que ça soit pas ça qui prenne le dessus. Et si ce film a créé cette telle fascination, et qu'il y a eu le documentaire de Ron Ashby, c'est ça, Room 237, avec tous ces gars qui viennent d'Internet qui disent ce film est sur la Shoah, ce film est sur les Indiens d'Amérique, ce film est sur le fait que les Américains n'ont pas marché sur la Lune, etc., etc. C'est parce que, en fait, en vidant le film d'une interprétation trop évidente, en fait, il permet de créer un espace dans lequel le spectateur va pouvoir projeter ses propres peurs. Et c'est ça que moi j'ai une relation d'amour absolue avec Shining, parce qu'à chaque fois que je l'ai vu, je pensais que ça parlait d'autre chose. Et donc du coup, quand je me suis rendu compte que plein de gens pensaient que ça parlait de plein de trucs différents, j'étais absolument ravi. C'est-à-dire que c'est il a pris la question en fait de qu'est-ce qui produit la terreur très au sérieux. Ce qui produit la terreur, c'est la capacité qu'a l'espace de produire un dysfonctionnement dans ton cerveau qui va créer. Tu vas créer toi-même, par le dysfonctionnement qu'il va y avoir, la forme de ton cauchemar. Et donc, le génie de Shining, c'est un génie architectural. Et c'est pour ça que le film est rythmé par l'enfant sur son tricycle, qui traverse l'espace du film. La façon dont l'hôtel, en fait... n'est pas reconstituable. Si on fait des cartes de l'hôtel Overlook, on va se rendre compte que la pièce où Jack Torrance est reçu au début pour son interview, elle a une fenêtre qui donne sur le dehors, alors qu'elle est au milieu de l'hôtel et qu'elle devrait évidemment pas avoir de fenêtre de toute façon, ou alors elle donnerait une fenêtre sur un couloir. Que la plupart des espaces ne fonctionnent pas, mais le spectateur ne s'en rend pas compte quand il le voit, mais il s'en rend compte quand même. Et ça, c'est un truc. Je sais pas comment Kubrick, peut-être par comment dire, est-ce que parce que c'est le film est inspiré, continue quelque chose qu'on peut voir dans un certain nombre de films où en effet la maison devient le sujet central, comme on a ça dans Suspiria de Argento, on a ça dans un certain nombre, dans Le Locataire de Polanski, la question des espaces et la question de la façon dont on filme l'espace, mais il le pousse à l'extrême, c'est-à-dire que grosso modo il crée cet espace qu'on croit pouvoir habiter, mais qui est inhabitable parce qu'il est bourré d'impossibilités. Et à partir du moment où on commence à rentrer dans l'exploration de cet espace, alors la grande parade des terreurs arrive. C'est ces trois voyages de l'enfant. Il y a trois voyages au tricycle, hein. Danny, il fait un premier voyage. En fait, il est au rez-de-chaussée et il contourne tout l'espace. Et ça, c'est un voyage absolument réaliste. Et là, on voit absolument l'espace tel qu'on doit le voir. Le deuxième voyage, il est au premier étage. Et là, ça commence à merder. Parce qu'en fait, grosso modo, quand il passe par-dessus les pièces, en fait, on les reconnecte à des endroits où on les reconnecte pas quand normalement on les voit dans le reste du film. Et troisième voyage, il est au sous-sol dans les cuisines et puis d'un coup, il y a un cut, il se retrouve tout en haut et là, tout en haut, il va voir les deux petites filles. Et en fait, c'est le trois étapes, c'est réaliste, le deuxième avec les impossibilités et le troisième, il a atteint sa forme chamanique visionnaire. C'est-à-dire que Danny est devenu visionnaire. C'est la troisième étape dans le film et c'est pour ça que Danny va pouvoir réussir à sortir de l'hôtel et pas son père Jack.
Oui, mais c'est ça, avec cette explication brillante de Pacôme, on voit bien comment King n'a pas aimé le film, parce que Kubrick s'appuie sur le livre, d'ailleurs il en a lu plein avant de prendre celui-là, pour installer, il voulait faire un grand film de terreur, Et pour ça, il fallait introduire pas seulement la peur de l'hôtel hanté, c'est aussi le créateur, donc l'alcoolique, celui qui n'arrive plus à créer, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le film, il faut attendre très longtemps avant qu'il y ait un geste irrationnel avéré par la mise en scène. C'est-à-dire que quand Jack est enfermé de l'intérieur dans le réduit et qu'il y a un fantôme qui le libère, ça, il ne peut pas se libérer tout seul. Donc, à partir de ce moment-là, le spectateur n'a plus aucun doute, même si lui est un alcoolique, même si l'enfant a le don du Shining, en tout cas, il y a aussi des fantômes. Dans ce... et c'est ça qui donne ce côté, cette richesse folle du film. Et Warner ressort le film en 4K, il y a les deux versions. Il y a les deux versions, et c'est ça qui est important. Il faut continuer à voir la version européenne.
Christophe Beer.
Oui, très grand film, mais je trouve qu'il y a, quelques aspects où j'ai des réserves, et surtout pour le casting. Jack Nicholson me semble beaucoup trop évident dès les premières scènes. La façon dont il est filmé, par exemple cette scène où il est au bord du lit, et il y a déjà son reflet dans un miroir, donc il invite son enfant à venir le rejoindre. Il n'y a pas tellement d'ambiguïté. Je trouve que le travail sur les seconds rôles est beaucoup plus riche dans Shining.
Voilà, on a appelé le diable et le diable a répondu présent. On commence l'analyse de Shining alors qu'il nous faut finir l'émission.
Ouais, d'accord. Bon, une prochaine fois. Alors
voilà,
pour la
on
suite.
Reprendra Fausto.
Allez voir Dr Sleep s'il est encore en salle.
Voilà.
C'est un film qui rime avec Shining de manière assez intéressante.
Merci à tous de vous être risqués dans l'univers donc de Stephen King à l'écran. Je signale également, ça n'a rien à voir, mais c'est important, un cycle science-fiction sur France Culture avant Mauvais Genre tous les samedis, conçu par Stéphane Michaka. Le prochain, c'est samedi 30 novembre, donc c'est une odyssée martienne de Stéphane Michaka, réalisé par Jean-Mathieu Zand. Les ouvrages dont on a parlé ce soir, Mathieu Rostac et François Coe, d'après une histoire de Stephen King, c'est chez Hachette. Yann Nathan, Stephen King à l'écran, c'est chez Bragelonne. Le super hors-série de Mad Movie, Stephen King, tous les films, toutes les séries adaptées du Maître de l'horreur, version souple et cartonnée. Le hors-série de Lire, Stephen King, Les secrets d'un mythe. Et puis le dernier numéro donc de Mad Movie 334 sur Dr Sleep, dont on parlera, bien ma foi, quand il sortira en DVD. Puis je rappelle de nouveau, donc Salem Slot, Blu-ray chez la Warner, et puis chez Carlotta, Cujo. Et puis Christine, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Paul Réana Joubert, Claire Poissillon, Claire Martin Dugard, Philippe Rouillet, Christophe Beer, Fausto Fazulo, Paco Mtielmont et François Angelier, vous remercie d'avoir suivi l'émission. On se retrouve samedi prochain, nous parlerons d'une part de Charles Burns et on parlera également des Gravesines avec Xavier Gilles Néret. Et d'ici là, bonne nuit à tous.